This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cours particulier avec Didier Ribon, seconde partie. Dans cet épisode, on déconstruit le discours de la psychanalyse sur le genre, l'homosexualité et l'ordre familial. Parce qu'on va le voir, les concepts, les principes, le cadre de la psychanalyse influencent très profondément ce qu'on croit savoir des individus, ce qu'on croit savoir des hommes, des femmes, de ce qui est normal, de ce qui serait une famille et des parents normaux. Et ces préjugés entrent très souvent en contradiction avec ce que nous montrent les études de genre. Vous allez voir, ça va devenir très clair dans quelques minutes. Dans notre culture, c'est très très important, les traces, la place et tout qu'ont laissé les concepts psychanalytiques. Mais tout le monde n'est peut-être pas très au fait de ça. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par résumer brièvement comment la psychanalyse imprègne encore notre manière de nous penser nous-mêmes et de penser la filiation et les individus?
C'est très étonnant parce que quand vous avez des projets de loi qui vont être discutés au Parlement, vous avez les commissions parlementaires auditionnent des spécialistes, des experts, et vous avez toujours des psychanalystes sur les lois sur la bioéthique, antérieurement les lois sur le Pax, le mariage pour tous, la filiation de même sexe, etc. Vous avez toujours des psychanalystes qui sont invités et qui évidemment viennent pour dire qu'il ne faut pas, que ça n'est pas possible, qu'on ne peut pas, que ça n'est pas pensable. L'immense majorité des psychanalystes est allée dans les commissions parlementaires pour dire qu'il fallait s'opposer à ces projets de loi, mais pas seulement dans les commissions parlementaires, ils vont dans les journaux, dans les émissions de radio, dans les émissions de télé. Vous avez une présence de la psychanalyse. Or, on pourrait penser que la psychanalyse n'a rien à dire sur ces questions. Le psychanalyste, ça devrait être quelqu'un qui reçoit des gens qui viennent le voir dans son cabinet, ou la voir dans son cabinet, et qui exposent, puisque si on va voir un psychanalyste, c'est qu'on a des problèmes, on ne va pas bien, et qui exposent ses souffrances, ses problèmes. La psychanalyste ne devrait pas dire comment on doit vivre, qui peut être reconnu comme un couple, une famille,
relation saine.
Voilà. Or, non seulement ils le font, mais ils le font systématiquement, et ils le font toujours pour s'opposer aux transformations sociales, avec des discours d'une violence sur des psychanalystes qui disaient, au moment du Pax, si un enfant est élevé par un couple d'hommes ou par un couple de femmes, dans 30 ans, les enfants ne sauront plus parler. Moi, je connais des enfants élevés par des couples d'hommes et de femmes. Pour ce qui est de parler, ça va très bien. Et même comme ils sont au contact de beaucoup de gens, plus que dans des familles hétérosexuelles, ils parlent tout le temps, ils parlent beaucoup, ils vont très bien. Et je me disais, mais de quoi parlent ces psychanalystes? Qu'est-ce que c'est que ces prophéties d'apocalypse où les enfants n'auront plus accès au langage parce qu'ils n'auront pas eu un père si c'est deux mères ou une mère si c'est deux hommes? Ce fantasme de la famille traditionnelle, alors que les religieux défilent en disant la famille c'est un homme et une femme, un papa, une maman et les enfants, ok, mais que les psychanalystes aillent dans les journaux de gauche qui les accueillent à longueur de colonne pour dire non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas pensable parce que ça mettrait en péril les fondements même de la société, de la civilisation, de la culture, etc. Et c'est tout l'ordre social qui va s'écrouler. On se dit, mais de quoi parle-t-il? Parce que ces réalités, elles existent sous leurs yeux. Ils doivent recevoir des gens qui viennent les voir et qui leur parlent de ces réalités. Comment peuvent-ils dire que ça n'est pas pensable? Et ce qui n'était pas pensable, c'est la reconnaissance juridique de ces réalités. Mais même on a vu, par exemple, sur le quand un gouvernement a voulu donner le droit à la mère de transmettre son nom et pas seulement au père, les psychanalystes s'y sont opposés en disant le père
donne
le nom, la mère donne la vie. On lui dit, si elle donne la vie, elle peut aussi donner le nom. Et pourquoi est-ce que et c'est ce fantasme psychanalytique qu'il y a le père du côté de la culture, du langage, de la politique,
de la loi,
voilà. Et la mère du côté du soin, de la famille, de l'espace
oui,
privé.
C'est quand même assez rétrograde,
non ? Et tout ce discours sur le père donne le nom, la mère donne la vie, tout ce discours s'articule à une conception rétrograde de l'opposition qu'il trace comme ça entre homme-femme, masculin-féminin, et cette dualité du masculin-féminin où un enfant ne pourrait pas accéder au statut de sujet humain s'il n'a pas une référence paternelle et une référence maternelle.
Et ça, on l'entend tellement partout. Enfin, j'ai même l'impression dans des articles sur comment bien éduquer les enfants et tout ça. Enfin, c'est quand même une idée qui traîne absolument partout.
Parce que la culture psychanalytique
a tout imprégné.
Les consciences de tout un chacun. Même si on ne lit pas Freud ou les psychanalystes contemporains.
Même si on ne fait pas de psychanalyse.
La culture freudienne et psychanalytique plus généralement a imprégné nos modes de pensée, les modes de pensée de tout le monde, des journalistes, vous lisez un magazine féminin, le vocabulaire psychanalytique et le mode de pensée psychanalytique est omniprésent. Vous lisez des revues savantes, vous lisez des revues culturelles, tout ce vocabulaire, peut dire réactionnaire, rétrograde de la psychanalyse envahit tout l'espace des discours que.
Puis y compris ce qu'on imagine, par exemple, dans ce qui serait bon dans l'éducation des enfants, que par exemple, si les enfants n'ont pas de référence masculine ou pas de référence paternelle, surtout quand ce sont des garçons, ils vont pas pouvoir se construire, par exemple.
Pas pouvoir se construire. Ce qui est d'ailleurs une étrange idée que si un enfant est élevé par deux femmes, il ne verra jamais un homme. Les femmes en question, elles peuvent avoir des frères, des amis,
des oncles, des pères.
L'idée que quand on est élevé par deux hommes, on ne voit jamais une femme, ou quand on est élevé par deux femmes, on ne voit jamais un homme, sont des idées totalement absurdes, et que des gens qui font profession de réfléchir sur ces questions, à savoir les psychanalystes, puissent tenir des propos aussi absurdes, posent quand même question sur la force des représentations traditionnalistes, rétrogrades du monde intellectuel en général, et de cette représentation hétérosexuelle et hétérosexiste du monde que certaines catégories, certaines positions dans le monde intellectuel essaient de défendre, notamment les psychanalystes, mais aussi des anthropologues, des Françoise Héritier, l'anthropologue qui apparaît comme une grande figure du féminisme, et s'était incarné un féminisme extrêmement rétrograde, puisque avait déclaré que l'homoparenté était c'est elle qui a dit que c'était non seulement impossible, mais impensable, puisque pour penser, disait-elle, il faut savoir faire des différences. Or, la différence primordiale, c'est faire la différence entre un homme et une femme, et que si on ne peut plus faire la différence entre un homme et une femme, on perdra la faculté de penser. Même si moi, je vis avec un homme, je sais quand même faire la différence entre un homme et une femme. D'ailleurs, cette idée qu'il faudrait faire la différence entre un homme et une femme
est tellement importante.
Mais... Et surtout, il y aurait les hommes et les femmes... Et rien entre ces deux réalités. Je sais pas, il y a des gens qui ne s'identifient pas à homme ou à femme.
Mais c'est ce qu'on montre en fait à longueur d'émission ici dans Les Couilles sur la table, c'est que vraiment il y a tellement de façons différentes de s'identifier comme
bien
homme
sûr,
que tout ça, ça évolue,
sûr,
etc.,
sûr,
etc. Mais j'ai l'impression que.
Mais surtout, l'idée que le couple et la famille sont les seuls lieux où on peut faire la différence entre hommes et femmes, il faut avoir un père et une mère pour faire la différence entre hommes et femmes. Il suffit de sortir dans la rue, vous allez prendre un café au coin, et même si vous êtes élevé par deux hommes ou deux femmes, vous faites la différence entre comment les gens sont habillés, comment ils se comportent. Vous regardez les séries à la télé, vous regardez le journal télévisé, vous regardez des émissions, vous savez faire des différences. Donc les anthropologues, comme les psychanalystes, ont dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absurdités. Et en fait, on voit bien que très souvent, des discours qui se présentent comme savants, scientifiques, des énoncés auxquels il ne serait pas possible de s'opposer parce qu'ils sont tenus par des experts, des spécialistes de ces questions, sont en fait tout simplement la mise en forme discursive de préjugés réactionnaires d'un vieil ordre social qui perdure et que des gens défendent et ils énoncent leurs préjugés, leur conformisme, leur mentalité rétrograde en prétendant tenir des discours scientifiques. Et où, en l'occurrence, la science ne sert que de masque. C'est une fausse science, une pseudo-science.
Oui, parce que du coup, c'est difficile de la contester. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de... Bon, que le genre, là, on commence à comprendre que c'est valide, là, dans la société, comme outil d'analyse pour les inégalités salariales, pour les violences sexuelles, pour plein de choses. Mais j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans des questions de vie intérieure, oui, de psychologie personnelle, etc., là, ça s'arrête et on a du mal à intégrer, en fait, ce que les études de genre nous apprennent et ce que le féminisme nous apprend. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question,
oui,
mais...
Non, je comprends très bien le...
On a l'impression qu'on ne peut pas remettre en cause, par exemple, la parole psychanalytique. On va faire une cure psychanalytique, ce que va dire le psy, on ne peut pas l'analyser avec ce que nous apprennent les études de genre et tout ça. Par exemple, il va nous dire... Bon, bah, moi, j'ai commencé une psychanalyse, par exemple, et on m'a expliqué que j'étais beaucoup trop virile, que tout ce que je voulais, avoir ma vie, être indépendante, tout ça, c'était une protestation virile.
La protestation virile, oui. Contre, mais Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, se moque déjà des psychiatres et psychanalystes qui analysent toute volonté d'une femme d'être libre comme la protestation virile.
Mais oui. Continue dans les années 2010. Moi, j'ai vu l'exemple de ça.
Bien sûr. Et si j'ai publié ce volume écrit sur la psychanalyse tout récemment, dont l'un des textes principaux s'appelle « Échapper à la psychanalyse », c'est précisément parce que je n'accepte pas ce discours psychanalytique qui se présente comme un discours savant qu'on ne peut pas contester, alors qu'il est plus qu'éminemment contestable. C'est une violence politique, culturelle, sociale, juridique qui s'exerce sur nos vies. Ce sont des gens qui tiennent un discours qui est simplement une élaboration pseudo-savante d'un point de vue conservateur et qui n'a rien de scientifique. Et par conséquent, moi, je ne veux pas me laisser intimider par ce terrorisme intellectuel dont les psychanalystes font étalage quasiment tous les jours. Et je veux contrer ce terrorisme intellectuel des psychanalystes, qui est aussi un terrorisme politique et juridique, et contre les psychanalystes qui veulent toujours nous dire comment on doit vivre, ce qu'on doit être.
Est-ce qu'on est normal
est-ce qu'on
ou pas
est, voilà, est-ce qu'il faut être plus masculin pour un homme, plus féminine pour une femme, avec des représentations tout à fait normatives de ce qu'est la masculinité et la féminité, et qui veulent nous les imposer. Contre ça, il faut défendre le droit des individus à vivre les vies qu'ils veulent vivre, à endosser les identités qu'ils ou elles veulent endosser, à se penser eux-mêmes ou elles-mêmes comme ils veulent se penser eux-mêmes ou elles-mêmes. Et il n'y a pas à dire aux gens, à une femme, vous n'êtes pas assez féminine, à un homme, vous n'êtes pas assez masculin.
Et pourtant, c'est des discours qui sont très, très
bien
souvent
sûr,
tenus.
Et que dans le couple hétérosexuel, l'homme doit être très masculin et la femme très féminine.
C'est l'inverse, voilà, qu'il ne faut pas, comme disait Lacan, que les femmes portent la culotte, tiennent les cordons de la bourse, que c'est toujours un truc bizarre qui serait synonyme d'un déséquilibre dans le couple, etc. Enfin, toutes ces représentations,
je pense que la psychanalyse est plutôt un symptôme.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
d'un ordre social plutôt qu'une réflexion, une analyse de cet ordre social. C'est un symptôme, une expression d'un ordre social et, étant expression de cet ordre social, travaille à défendre l'ordre dont cette pseudo-science est l'expression et le symptôme. Et donc, nous devons défaire les catégories de la psychanalyse, notamment la différence des sexes comme principe fondamental qui doit régir nos existences, ce qui condamne évidemment beaucoup de gens, puisque si vous ne vivez pas dans le cadre de la différence des sexes, non seulement dans le cadre de vos amours et de votre sexualité, mais aussi dans comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous pensez,
ouais, comment vous parlez, et
moi je n'ai pas de point de vue normatif là-dessus. Je ne dis pas il faut être ceci, il faut être cela. Des gens vivent des vies très différentes et il n'appartient pas aux psychanalystes de dire mon savoir me permet de vous dire que vous devez être comme ça et que vous ne devriez pas être comme ça ou comme ça.
Vous devriez faire comme ça parce qu'à la base, il y a quand même une souffrance. Donc si vous voulez moins souffrir, vous devriez faire comme ça. Et le pire, c'est que je me dis que, effectivement, quand on est en décalage avec la norme, et qu'on se met en conformité avec la norme, certainement, ça apporte un soulagement provisoire. Hein, puisque là, d'un coup, on souffre moins.
Bien sûr,
quand on est un homme, par exemple, puisqu'on parle des masculinités ici, qu'on est un homme, qu'on ne correspond pas au canon viril, qu'on ne correspond pas à cette image de ce que Robin Connell appelle la masculinité hégémonique, et que d'un coup, on fait des tas d'efforts pour y parvenir, on change sa gestuelle, se muscle, on arrête telle ou telle attitude, etc. J'imagine que ça doit apporter un soulagement, un certain soulagement, puisqu'on est enfin en conformité avec la norme.
Dans son livre que j'aime beaucoup, « La domination masculine », Pierre Bourdieu dit on lui a beaucoup reproché cette phrase, ce paragraphe, mais je trouve que c'est tout à fait à tort, puisque c'est tout à fait juste. Il dit que la domination masculine s'impose d'abord aux hommes qui doivent faire un effort chaque jour,
pour
correspondre à l'idée de la masculinité, l'idée normative, sociale de la masculinité, et qu'il y a... Alors, ça n'exonère pas les hommes de leur... de la violence, de la force qu'ils peuvent exercer, de la domination qu'ils incarnent, et tout ça, ça ne les exonère pas. Mais il y a aussi la domination, si on veut faire une analyse, la domination masculine s'exerce sur les femmes, mais s'impose aux hommes qui doivent faire un effort permanent pour correspondre à une représentation de ce qu'ils doivent être. Et ça, évidemment, quand vous ne correspondez pas, vous avez tendance à essayer de correspondre, de coïncider avec les valeurs normatives. Sinon, c'est difficile. Mais au moins, si vous essayez d'analyser ça et que prétendent faire les psychanalystes, vous n'avez pas à dire aux gens, vous devez être ça. Vous avez à dire aux gens, bien sûr, si vous n'êtes pas ça, ça pose des problèmes, c'est les problèmes que vous rencontrez, on va essayer de résoudre ensemble. Et les mouvements d'affirmation politique, culturelle, sociale, sont là pour essayer de déplacer justement les valeurs normatives, je ne dis pas les défaire, mais les déconstruire en partie.
Donner un peu plus de mou,
un peu plus d'un espace de jeu, dans lesquels on peut s'inventer différemment, on peut vivre différemment.
Donc on pourrait imaginer une psychanalyse qui prend en compte tout ça, mais j'ai l'impression que vous critiquez pas seulement les usages normatifs de la psychanalyse, vous critiquez même la façon dont la psychanalyse prétend décrire les individus, en disant, un individu, ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a un inconscient, et ça se construit avec le complexe d'Oedipe, ou petit garçon, vous êtes amoureux de votre mère, vous voulez tuer votre père, si vous devenez homosexuel, c'est parce que votre complexe d'Oedipe s'est pas bien passé, En fait, la psychanalyse ne prend pas du tout en compte les dimensions sociales et les dimensions historiques dans lesquelles on grandit. Est-ce que je vous ai bien compris ?
Oui, il y a des tentatives rares, mais qui existent, je ne vais pas les nier, de rénover la psychanalyse dans un sens non normatif, non comme ça, rhétoriquement, politiquement violent et terroriste. Il y a des tentatives. Mais ces tentatives-là, forcément, si vous êtes psychanalyste, vous devez adosser vos analyses à des concept, à une grille conceptuelle. Sinon, c'est plus rien. Si c'est juste recevoir des gens sur un divan qui vont parler et que vous n'allez pas interpréter ce qui vous est dit, il n'y a plus de psychanalyse du tout. Donc, si vous êtes psychanalyste, forcément, il y a une grille d'analyse, une grille conceptuelle pour comprendre, interpréter ce qui vous est dit. Or, cette grille d'analyse repose sur un certain nombre de concepts qui sont, en effet, le concept, le complexe d'Oedipe, le triangle familial, l'enfant qui se réfère à la fonction maternelle, à la fonction paternelle, l'enfance qui est déterminée par cet ordre familial. Et tout ça laisse de côté les questions sociales, les questions politiques, l'histoire. Or, bien souvent, ce que nous sommes, ça n'est pas déterminé par la famille, mais notre famille est déterminée par tout un ordre social.
Ça, c'est ce que vous montrez, c'est tout le travail que vous faites.
Voilà, et la classe sociale détermine ce que sont les parents, et donc ce que sont les enfants avec les parents, bien plus que le complexe d'Oedipe, la castration, enfin tous ces concepts, la différence des sexes, etc. Et moi, je sais que, par exemple, mes problèmes avec mes parents, si j'ai voulu fuir mes parents, c'est pas le complexe d'Oedipe, c'est pas parce que je voulais tuer mon père, c'est parce que il y avait, et ici il faut remplacer je crois le complexe d'Oedipe par le système scolaire.
C'est ça ce que vous proposez, parce que ouais. La question que j'allais vous poser c'est ok, par quoi est-ce qu'on remplace la psychanalyse, parce que ça correspond à un besoin aussi, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'aller mieux quand on souffre,
par une analyse sociologique.
Vous dites une introspection sociologique.
Par exemple, comment la sociologie nous permet de comprendre que le rapport différent au système scolaire. Moi, mes parents sont sortis du système scolaire à 14 ans. Ils sont allés à l'école primaire, et puis à 14 ans, ils sont entrés à l'usine, 13 ans et demi pour mon père, et ma mère est devenue femme de ménage à 14 ans. Moi, j'ai fait des études secondaires, puis des études supérieures. Il est évident que la fréquentation différente dans la longueur du système scolaire produit un rapport tout à fait différent, non seulement à la culture, mais aussi au langage, à la politique, au rapport avec les autres, etc. Donc, il y a ici des incompréhensions qui ne sont pas liées à l'ordre familial, mais qui sont liées en l'occurrence au fait qu'on appartient à une classe, et moi les enfants même d'ailleurs qui restent dans la même classe sociale fréquentent aujourd'hui plus longuement le système scolaire que ça n'était le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents, et que par conséquent ça fait un rapport très 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 différent si on a appris un peu d'anglais au collège et au lycée, si on a lu des livres, de la littérature, le rapport, tout ça doit être pris en compte avant la question les catégories de la psychanalyse. Mais même l'inconscient, l'idée d'inconscient qui est la base de la théorie psychanalytique, ouais. Cette idée d'inconscient, on peut contester la manière dont la psychanalyse pense l'inconscient comme cet inconscient lié à la structure familiale, à la fonction paternelle. L'inconscient, c'est lié à l'histoire. Quand je dis je suis le fils de la révolution industrielle...
Et c'est en ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que l'inconscient n'existe pas, mais ça veut dire qu'on est traversé quand même par tout ça.
Mon inconscient, il est produit par toute une histoire, un siècle qui a créé une classe ouvrière, des gens qui sortent de cette classe ouvrière, qui accèdent à d'autres milieux sociaux, etc. Et si je m'auto-analyse, c'est ça qui me permet de me comprendre aujourd'hui, et c'est ça qui, je crois, permet de comprendre bien les rapports aux autres, les rapports à la politique.
Donc bien des souffrances aussi, bien des problèmes.
Bien des souffrances, bien des problèmes, évidemment. Quand Retour à Reims est sorti il y a 10 ans, j'ai reçu, et je continue de recevoir, des dizaines, des centaines, peut-être plus, de lettres ou de messages de gens qui me disent « Vous m'avez permis de me comprendre ». Or, évidemment, si j'avais dit « C'est le complexe d'Oedipe », bon, c'est des choses banales.
On a aussi entendu des récits de soulagement après des cures psychanalytiques,
oui,
etc.
Oui, mais... oui, parce que la psychanalyse vous fait croire, elle montre comment vous ne coïncidez pas avec l'ordre et pourquoi vous pourriez coïncider, et comment vous devriez être pour coïncider avec l'ordre. Elle vous réinscrit dans l'ordre. Et donc, elle perpétue l'ordre social tel qu'il est. Alors, je ne dis pas que si ça permet à des gens d'aller bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des psychanalystes. Je n'ai pas de point de vue prescriptif là-dessus. Si quelqu'un va mieux en allant voir un psychanalyste...
Ah oui, moi aussi, je suis pour tout ce qui vous fait aller bien.
Tant mieux pour lui ou pour elle.
Oui.
Simplement, je sais qu'en faisant ça, il est évident que la psychanalyse travaille à reconduire l'ordre social tel qu'il est en adaptant les individus à coïncider à cet ordre social. Alors bon, bah, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux aller bien que de se dire tous les matins comment je vais subvertir l'ordre social et puis aller mal par ailleurs. Donc je n'ai pas de réponse à ça. Mais si on veut penser théoriquement le monde social, ce que sont les individus dans le monde social, etc., il faut proposer une analyse sociologique, historique, politique des processus.
Genre, ça participe aussi genre, de ça, parce que moi, je reçois j'ai reçu là peut-être des centaines et des centaines de courriers aussi qui disent, de personnes, d'auditeurs notamment, qui disent que c'est un soulagement pour eux d'entendre, de comprendre autrement les rapports, par exemple les difficultés relationnelles qu'ils ont, et de comprendre à quel point c'est lié au genre, en fait, et c'est lié aux normes de genre, notamment aux normes de la masculinité dominante.
Si on reprend l'exemple de Violette Leduc, c'est un rapport de classe. Sa mère est femme de ménage dans une famille bourgeoise, a une relation sexuelle avec le fils de la famille bourgeoise. C'est un rapport de classe. Le père biologique n'entend pas s'occuper de la petite fille. Donc, c'est un rapport de classe, un rapport de genre, puisque la mère célibataire, qui est la femme de ménage, qui est enceinte, qui accouche d'une petite fille, l'homme n'a pas ce problème-là, puisque c'est pas lui qui accouche. Donc, c'est la mère qui s'occupe de la petite fille. Vous avez ici une imbrication du rapport de classe, du rapport de genre, et je dirais du rapport de puisque la petite fille est bâtarde, entre guillemets, la bâtarde, c'est une catégorie sociale de stigmatisation, et vous avez ici un ordre de la parenté, de la filiation, qui considère que certains sont dans une filiation légitime, normale, acceptable, et puis d'autres qui sont une sorte de paria de l'ordre social.
Parce que ça va forcément produire des dommages irréversibles,
voilà,
etc.
Ils sont des parias de l'ordre social parce la mère a fauté, entre guillemets.
Que, par exemple, on a plein de demi-frères et sœurs, on n'a pas été élevé dans une famille avec un schéma traditionnel, et qu'il va, il va forcément se produire des tas de dommages psychologiques et psychiques.
Or, ici, c'est pas la psychanalyse qui peut vous aider à comprendre ça. C'est l'ordre, c'est l'analyse de classe sociale, du genre, de l'analyse des formes de la parenté,
et de la filiation.
De la filiation. Or, la psychanalyse ne vous aide pas à penser ça. C'est donc l'imbrication des formes instituées de la parenté, reconnues comme telles de la parenté. C'est l'analyse en termes de classe, c'est l'analyse en termes de genre. Tout ça, évidemment, est totalement imbriqué. Et ici, je dirais que c'est l'analyse historico-sociale, sociologique, qui permet de comprendre à partir de différents registres d'analyse qui ne sont pas précisément des registres individuels où on aurait des problèmes personnels, parce que la psychanalyse, c'est forcément tend à individualiser. C'est vos problèmes personnels avec...
Vous dites même que ça flatte le narcissisme après de ceux qui le font en disant « Je suis un individu exceptionnel, séparé, singulier, etc. » Alors que vous, c'est vrai que ça, c'est peut-être ça qui peut sembler terrifiant. Mais en fait, toute votre pensée, avec Bourdieu aussi et tout, montre bien que en fait, l'individu, ça n'existe pas vraiment en réalité.
Consiste à désingulariser l'individu.
Oui, de se replacer sans arrêt dans... un groupe social, dans une histoire, etc.
Retour à Reims n'est pas une autobiographie, comme on le dit souvent, c'est parce que le « je » qui parle dans Retour à Reims, qui est celui qui écrit, c'est-à-dire moi, n'est pas un « je » individuel. Le « je » ici est comme une incarnation d'une position sociale, dans un monde social, dans un ordre social, qui analyse des classes sociales, des classes sexuelles, des classes de genre, des classes raciales, évidemment, puisque de race, puisque il s'agit de la classe ouvrière blanche.
Et vous dites que elle est très raciste.
Raciste, voilà. Donc ouais. Ici, il y a une imbrication des analyses, et ça n'est donc pas du tout...
Oui, mais à la fin, ça donne quand même vous. Enfin, désolé, on va un peu vite, mais à la fin, qu'est-ce qui reste de l'individu, en fait? Qu'est-ce qui reste de la liberté? Qu'est-ce qui reste de notre libre-arbitre, etc.? Parce qu'à la fin, toutes ces trajectoires... Ok, je veux bien, il y a toutes ces intersections pour vous, fils d'ouvrier, gay, blanc, né dans les années 50, etc. Mais à la fin, ça donne vous.
Il reste donc, moi, si vous voulez, en train de vous parler, parce que j'ai écrit des livres, ce qui veut dire que je ne nie pas l'individu, je ne nie pas les possibilités de faire des choses, de dire des choses, de plus ou moins...
Et aussi d'échapper peut-être
au déterminisme, bien sûr, jusqu'à un certain point, je ne le nie pas, mais pour comprendre qui je suis, je dois faire intervenir toutes ces dimensions que j'ai évoquées, de la classe sociale, de la géographie sociale, où je suis né, à Reims, dans les années 50, de la sexualité. Ma trajectoire scolaire est très ascendante et sociale, est très évidemment liée à la déviation, entre guillemets, sexuelle. Si j'avais été hétéro, je n'aurais pas eu à m'inventer différemment de ma famille et de mon milieu, je serais resté dans le milieu dans lequel j'étais. Donc, toute cette trajectoire qui m'a mené à écrire des livres et à venir en parler avec vous, tout ça, on peut l'analyser à partir d'un certain nombre de facteurs, de déterminations historiques, sociales, politiques, qui font que ce que je suis, l'individu libre qui écrit des livres librement et qui vient vous en parler, est le produit d'une histoire et d'une sociologie qu'on peut analyser. Mais l'analyse ne veut pas dire que... le fait d'analyser les déterminismes ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de place pour l'invention de soi dans ces déterminismes.
Peut-être que vous avez inventé une nouvelle cure.
Oh, je dirais pas ça comme ça, mais si des lecteurs et lectrices peuvent trouver dans mes livres le moyen de se penser eux-mêmes et de se libérer d'un certain nombre de carcans, comme beaucoup de lecteurs et lectrices me le disent ou me l'écrivent, j'en suis très très heureux.
Merci beaucoup Didier Raymond.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la deuxième partie de ce cours particulier avec Didier Ribon. Dites-nous ce que vous en avez pensé, soit sur les réseaux sociaux, soit par courriel. L'adresse, c'est toujours lescouillessurlatable@binge.audio. On se retrouve dans quelques semaines pour la saison 3 des Couilles sur la table. Je peux déjà vous dire qu'on va parler de viande, de rap, de paternité, toujours d'un point de vue féministe, bien sûr. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt. À la prise de son, à la réalisation, c'était toujours Quentin Bresson. À l'édition Camille Regache, les illustrations viennent du studio Upian. La stagiaire s'appelle Nadia Chapelle. Le directeur de la rédaction, David Carzon. Le générique est signé Théo Boulanger. À la direction des programmes, Joël Ronez. Et moi, je m'appelle Victoire Tuaillon et je vous dis à bientôt.